Pour introduire le sujet de ce matin, j'aimerais commencer par une question. Que demandez-vous à Dieu quand vous priez pour quelqu'un, et plus spécifiquement quand vous priez pour un frère ou une sœur dans la foi? Quelles sont les choses importantes pour lesquelles vous intercédez? En haut de la liste, il y a très probablement la santé en général, la guérison pour les malades, un travail pour les chômeurs, ou encore la paix pour ceux qui traversent l'épreuve, la consolation pour ceux qui sont dans le deuil, la sagesse pour ceux qui ont une décision importante à prendre, etc. Nous demandons souvent en fonction d'un besoin, d'une urgence, et il n'y a rien de mal à cela. Mais j'aimerais ce matin élargir notre horizon avec une prière de l'apôtre Paul. Une prière qui se trouve au début de sa lettre aux Philippiens. Cette prière est non seulement belle, mais elle est surtout profonde. Et elle me semble être une source d'inspiration pour nous et pour notre intercession. Je vous invite donc à lire ces versets dans l'épître aux Philippiens au chapitre 1. Je lis les versets 3 à 11, mais ce sont essentiellement les versets 9 à 11 qui nous intéresseront ce matin. « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans mes chaînes comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je relis donc les versets 9 à 11 qui vont nous intéresser. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. L'apôtre Paul a l'habitude au début de ses lettres d'exprimer une prière pour celles et ceux à qui il écrit. C'est ainsi qu'après avoir dit au verset 3 qu'il rend grâce à Dieu à chaque fois qu'il se souvient d'eux, qu'après avoir dit au verset 4 qu'il ne cesse dans toutes ses prières pour eux de prier avec joie, qu'il précise au verset 9 à 11 le contenu de ce qu'il demande à Dieu pour les Philippiens. Et que demande-t-il? Pas la santé, pas la guérison, pas des bienfaits matériels, pas la paix ou la consolation. Que demande-t-il? Il demande deux choses que nous allons prendre dans l'ordre. La première requête de l'apôtre se trouve au verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Notons tout d'abord que l'apôtre ne précise pas l'objet de cet amour dont il parle. Ceci dit, il est très probable que cet amour soit simplement l'amour que Dieu verse dans le cœur de ses enfants par le Saint-Esprit comme l'apôtre l'écrit au chapitre 5 de son épître aux Romains, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, Dieu met son amour en nous, mais cet amour est appelé à grandir. C'est pourquoi Paul prie et demande à Dieu pour les Philippiens que leur amour, cet amour de Dieu en eux, abonde de plus en plus, qu'ils grandissent en eux, qu'ils se manifestent de plus en plus. Cela nous rappelle que la vie chrétienne est tout sauf statique. L'image de la marche souvent utilisée le souligne bien. La vie de la foi, c'est une marche en avant. C'est une marche de progrès en progrès, et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Ainsi, nous lisons par exemple dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 1, « Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire au Seigneur. D'ailleurs, vous le faites bien. Eh bien, progressez encore. » On peut aussi traduire « marcher de progrès en progrès ». L'amour que Dieu a mis en nous est appelé à grandir. Et l'apôtre, d'ailleurs, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, soulignera justement dans sa prière, pour eux, l'abondance de leur amour, cette abondance qu'il demande pour les Philippiens. « Nous devons, frères, dit-il, rendre continuellement grâce à Dieu, à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. » Cet amour en nous, appelé à grandir, est premièrement pour Dieu. C'est lui que nous devons aimer en premier. D'ailleurs, l'amour pour Dieu est le premier et le plus grand des commandements. Jésus le rappelle aux pharisiens qui l'interrogeaient à ce sujet. Je lis Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. » Et puis Jésus ajoute « Et voici le second qui lui est semblable. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Cet amour en nous, qui est appelé à grandir, est donc deuxièmement pour notre prochain et tout particulièrement pour nos frères et sœurs dans la foi. L'amour est au cœur de la vie chrétienne, c'est une évidence qu'il faut quand même parfois rappeler. Dieu est amour, et il faut que la vie de ses enfants soit caractérisée par l'amour, remplie d'amour, d'un amour qui abonde de plus en plus. Dans ce sens, nous devons être les imitateurs de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre écrit dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 5, versets 1 et 2, « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Mais de quelle sorte d'amour parlons-nous ? Le texte que nous venons juste de lire précise que cet amour doit être à l'image de celui de Dieu manifesté en Jésus. C'est l'amour agapé dont nous parlons, dont parle notre texte, un amour qui cherche l'intérêt de l'autre avant le sien, un amour qui agit, un amour qui se donne, un amour qui est à l'image de celui de Jésus à la croix. Mais de quoi se nourrit cet amour ? C'est ici que nous en venons précisément à ce que Paul dit dans sa première requête. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance. Cet amour qui doit abonder dans nos vies doit être en connaissance, dit Paul. La connaissance dont il est question ici est à l'évidence celle de Dieu, celle des choses de Dieu. Paul ne pense pas ici à la connaissance en général, mais à la connaissance de Dieu. On pourrait comprendre ici que c'est l'abondance de l'amour qui nous amène à mieux connaître Dieu et les autres. Il faudrait donc, dans cette logique, plus aimer pour mieux connaître. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est la connaissance de Dieu, de sa volonté, de sa parole, qui nous amène à mieux l'aimer et à mieux aimer les autres. L'amour que Dieu a mis dans nos cœurs se nourrit de cette connaissance. Ainsi, si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier et nous l'a fait savoir en se révélant à nous par sa parole et par le Fils. C'est ainsi que nous pouvons mieux connaître Dieu et donc mieux l'aimer. Il est vrai que nous pouvons accéder à la connaissance d'un Dieu créateur par la nature. Mais cette connaissance de Dieu est très limitée. Et d'ailleurs, elle ne dit pas grand-chose de Dieu lui-même. Est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce qu'il est bien disposé à mon égard? Est-ce qu'il m'aime? La création ne répond pas à ces questions. Pour que nous connaissions vraiment Dieu, il fallait que Dieu se révèle directement par sa parole et par le Fils. C'est ainsi que nous pouvons vraiment connaître Dieu et que nous pouvons vraiment l'aimer. Bien sûr, l'amour de Dieu est plus que sa connaissance. L'amour pour Dieu est bien plus important que la connaissance de Dieu. Mais si quelqu'un aime Dieu sans savoir grand-chose de lui, ne l'aimera-t-il pas plus en apprenant à mieux le connaître? En fait, chaque chose que nous apprenons sur Dieu est une nouvelle raison de l'aimer. Il serait bien étrange que ce soit l'inverse, que nous puissions aimer plus en connaissant moins. Comment donc connaître plus pour aimer plus? Par la parole de Dieu, par son étude et sa méditation personnelle, par l'enseignement de l'Église, par le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et par l'obéissance à Dieu. Obéissance et amour sont étroitement liés. C'est en serrant la parole de Dieu sur notre cœur que nous ne péchons pas, que nous péchons moins. C'est pourquoi l'apôtre Jean peut dire dans sa première lettre au chapitre 5, verset 3, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » La première demande de Paul pour les Philippiens est donc que leur amour abonde de plus en plus en connaissance. C'est aussi ma prière pour chacun de nous. Mais il faut pour cela que la parole de Dieu, que nous fassions de la parole de Dieu notre pain quotidien pour mieux apprendre à connaître Dieu. Il faut pour cela que nous gardions cette parole sur notre cœur pour moins pécher, pour ne pas pécher contre Dieu. Alors, nous verrons notre amour pour Dieu et pour les autres abonder de plus en plus en connaissance. Passons maintenant rapidement à la deuxième requête de l'apôtre qui demande, deuxièmement, que leur amour abonde de plus en plus en parfait discernement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot grec utilisé ici est traduit par « sensibilité » dans la version que j'ai lue, peut aussi se traduire par « perspicacité » ou « discernement ». Il me semble personnellement que c'est ce sens qu'il faut retenir ici. Ainsi, la Bible du Semeur traduit « que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. » Que demande Paul ici pour les Philippiens? Il demande que leur amour soit empreint de discernement, capable de savoir quelle bonne attitude avoir dans une situation donnée, qu'ils soient éclairés de cette capacité à voir les choses comme Dieu les voit, qu'ils soient capables de vivre comme Dieu le désire, qu'il abonde de plus en plus en parfait discernement. D'où vient ce discernement? Il vient de Dieu, par son esprit et par sa parole. Il vient aussi de l'expérience que nous acquérons. Pourquoi Paul demande-t-il ce discernement pour les Philippiens? Sans doute parce que les chemins de l'amour sont nombreux, les possibles de l'amour sont multiples, et toutes les façons d'aimer ne se valent pas. Certains parents, par exemple, aiment leur enfant en les laissant tout faire. D'autres les aiment en posant des limites. Non, toutes les façons d'aimer ne se valent pas. Ainsi, il ne s'agit pas juste d'aimer Dieu ou d'aimer son prochain en faisant chacun comme il l'entend, même si c'est d'un amour grandissant. Il s'agit au contraire de les aimer avec discernement. Ce discernement qui vient de Dieu et qui est nourri par sa parole. Ce discernement qui nous permet de faire les bons choix, qui nous permet d'aimer selon Dieu. Notre amour pour Dieu et pour notre prochain a besoin de ce discernement. Et c'est ce qui pousse l'apôtre à demander à Dieu, à le demander à Dieu pour les Philippiens. Après avoir considéré les deux requêtes de l'apôtre pour les Philippiens, je vous propose maintenant d'aborder les objectifs de ces deux requêtes. Je relis les versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité ou en parfait discernement, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. L'apôtre exprime deux objectifs dans notre texte, par sa prière. Et le premier est qu'il sache apprécier ce qui est important. C'est notre troisième point. Ce que l'apôtre désire et demande à Dieu pour les Philippiens n'est pas juste la croissance, l'abondance de leur amour en connaissance et en discernement. En fait, il va plus loin. Et il demande la croissance de leur amour afin qu'ils puissent apprécier ou discerner ce qui est important. De quoi s'agit-il? Le mot que l'apôtre utilise ici et qui est traduit par « important » dans notre texte signifie ce qui a de la valeur, ce qui est excellent, ce qui est vital. Et pour faire ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ce qui est excellent ou vital à ses yeux, il faut du discernement. Et nous rejoignons ici le point précédent. Il faut du discernement car les possibilités sont multiples, car tout ne se vaut pas, car certaines choses sont plus importantes que d'autres. Ainsi, s'il faut parfois, souvent choisir entre le bien et le mal, il faut aussi souvent choisir entre le secondaire et l'essentiel, entre le bon et le meilleur, entre le meilleur et l'excellent. En fait, au service du Seigneur, l'excellence est la qualité que nous devrions toujours rechercher. Servir Dieu, marcher à la suite du Christ, ce n'est pas juste faire ce qu'il y a à faire, mais c'est faire ce que le Seigneur nous demande, C'est accomplir sa volonté, c'est faire ce qui compte vraiment pour Dieu et pour l'avancement de son règne. C'est en d'autres mots entrer dans ses projets pour moi, pour ma vie, dans les œuvres bonnes qu'il a préparées pour chacun de ses enfants, comme l'apôtre l'écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et pour cela, il faut du discernement. Notons bien ici la différence entre discerner et faire. Je peux savoir ce qui est important, je peux même le discerner et ne pas le faire. Savoir, ce n'est pas obéir. Discerner, ce n'est pas choisir de faire. Il est donc primordial que nous discernions ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce qui est excellent pour Dieu. Il y a tant de possibles dans la vie, il y a tant de choses à faire pour le Seigneur. Mais il est surtout important qu'après avoir discerné, nous entrions pleinement dans ces œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Il est vrai que l'apôtre ne parle ici que de discernement de ce qui est important. Mais il me semble évident qu'il ne dissocie pas le discernement de l'accomplissement. Voilà donc le premier objectif de ce que l'apôtre demande pour les Philippiens. Un premier objectif qui s'atteint par quand la connaissance et l'amour de Dieu grandissent dans notre cœur. Plus nous connaissons Dieu, et plus nous l'aimons, plus nous connaissons, et plus nous sommes en capacité de discerner ce qui est important. Nous arrivons à notre quatrième et dernier point. C'est le deuxième objectif de la requête de Paul pour les Philippiens. Il demande que la croissance de leur amour, ils demandent la croissance de leur amour, deuxièmement, afin qu'ils soient purs et irréprochables pour le jour de Christ. La vie chrétienne ne doit pas être vécue pour ici-bas seulement, mais aussi dans la perspective de l'éternité, de la vie éternelle, des promesses que Dieu a faites concernant cela, de l'espérance qui nous est offerte. C'est pourquoi ce que Paul demande pour les Philippiens dépasse le cadre de leur existence terrestre et va jusque dans l'éternité, jusqu'au jour de Christ. Le jour de Christ, c'est simplement le jour de son apparition, le jour de son retour. C'est aussi le jour où chacun comparaîtra devant Dieu. Souvenons-nous ici que si nous sommes en Christ, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons pas à craindre ce jour où nous nous tiendrons devant Dieu. Pourquoi ? Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais simplement parce que nous sommes au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous en prenant notre condamnation. De telle manière, dit Paul aux Romains, qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce pour autant qu'il faut prendre ce rendez-vous à la légère ? Non, bien sûr, parce que nous aurons néanmoins des comptes à rendre à Dieu, des comptes à rendre pour ce que nous aurons fait de la grâce que nous avons reçue, des comptes à rendre pour ce que nous aurons fait de l'amour qu'il a mis dans nos cœurs. C'est dans cette optique que Paul désire, dans notre texte, que les Philippiens soient purs, on peut aussi traduire par sincères et irréprochables pour ce jour-là. Pour que rien ne vienne entacher la fête, pour que tout soit à la gloire et à la louange de Dieu, dit-il. Ainsi, en connaissant mieux Dieu, nous sommes en mesure de mieux l'aimer et de mieux aimer notre prochain et nos frères et sœurs en Christ. Nous sommes aussi en mesure de discerner et de faire ce qui est important, vital, excellent aux yeux de Dieu. Et quand nous agissons ainsi, Dieu, par Jésus, nous fait porter du fruit par lequel, ou avec lequel, nous nous présenterons un jour devant lui. Ce fruit, ce sont les œuvres bonnes ou justes que nous aurons accomplies. Ce sont ces œuvres bonnes que Dieu avait préparées pour nous et dans lesquelles nous sommes entrés et avec lesquelles nous nous présenterons devant lui. Notons qu'en parlant de fruits de justice, Paul ne parle pas ici de justification, même s'il y a un lien entre les deux. Le fruit de justice, c'est le fruit qui découle de ce qui est juste, qui découle de la justice de Christ. Le fruit de justice, ce sont donc ces œuvres bonnes préparées par Dieu et dans lesquelles nous sommes appelés à entrer. Ce qui est rassurant ici, c'est que ce fruit vient par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui devons le produire, c'est lui qui le produit en nous. C'est lui qui nous rend capables de l'accomplir. C'est lui qui nous rend purs et irréprochables pour le jour de son retour. D'ailleurs, dans les versets qui précèdent, il a dit au verset 6 que Dieu achèvera l'œuvre bonne qu'il a commencée au jour de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous voilà arrivés au terme de cette prière remarquable de Paul pour les Philippiens. Une prière qui ouvre l'horizon de notre propre prière pour les autres. Continuons à prier pour les besoins de chacun, qu'ils soient matériels ou moraux. Mais prions aussi pour les besoins spirituels, tels que nous venons de le voir dans notre texte. La prochaine fois que nous prierons, que vous prierez pour un frère ou une sœur dans l'Église, pourquoi ne pas demander que son amour abonde de plus en plus, en connaissance et en parfait discernement, afin qu'il ou elle sache apprécier ce qui est important, afin qu'il ou elle soit trouvé pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Oui, à la gloire et à la louange de Dieu. Ce sont nos vies remplies de son amour, où son amour abonde de plus en plus, qui plus que toute autre chose rendent gloire et louange à Dieu. Puisse cela être vrai de chacune de nos vies. Amen.